session de philosophie par le père Philippe à Saint-Jodard le 13 juillet 1990.
C'est la dernière journée. Il y a encore beaucoup de choses à dire, vous voyez. C'est très bien, tu vois, ça c'est le propre de la philosophie. C'est qu'on ne termine jamais. C'est une recherche constante. Et alors, il y a toujours ce point de vue très intéressant de voir que l'Église, c'est Paul VI, maîtresse d'éducation pour l'homme. Parce que l'Église a une vision plus profonde qui va beaucoup plus loin. Elle est conduite par l'Esprit Saint. Le philosophe n'est pas conduit par l'Esprit Saint en tant que philosophe. De temps en temps, l'Esprit Saint lui fait confiance. Mais c'est sa recherche intellectuelle. Alors, s'il est chrétien, il sait qu'il y a ce domaine de la foi qui éclaire toute ma morale, qui éclaire tout l'homme. L'homme mu par l'Esprit Saint est plus qu'un homme. Il est un surhomme. C'est le Christ qui habite en lui. Et l'Église peut donner des lumières que philosophiquement on n'a pas encore découvert. Constamment c'est comme ça. Et là c'est tous ces problèmes d'aujourd'hui du reste. Parce qu'il paraît que certains se posent des questions et ayez la simplicité, et ça je vous le demande, hein. Cette session est une session de recherche, de poser toutes vos questions. À moi, si vous voulez, si vous les osez pas les poser à ceux qui sont pour les différents groupes, mais il faut poser toutes vos questions. Ça, j'y tiens beaucoup. Il ne faut pas partir d'ici en disant il y a des questions qui se posent et que je n'ai pas résolu, je ne vois pas très bien. Il faut voir le point de vue de l'Église, de la foi, le point de vue philosophique. Et le point de vue scientifique. Au point de départ, je vous ai dit, c'est très très important de comprendre ça, aujourd'hui. Ne demandez pas à un savant, même à un médecin, comme médecin, des solutions que lui ne peut pas donner comme médecin. Demandez au philosophe de dire ce qu'il peut dire. Le philosophe va plus loin que le médecin. Puisqu'il regarde l'âme. Un bon médecin devrait regarder l'âme. Parce que le médecin va plus loin que le savant. Il ne faut pas l'oublier. Mon cher ami que je connais bien, professeur à la faculté de médecine à Paris, me dit toujours, je suis plus médecin que savant. J'aime bien ça, cette attitude-là. Elle dit, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, en tant que médecin, je regarde l'homme. En tant que savant, je cherche. Et c'est vrai, le médecin regarde l'homme. Et le savant, ben, il regarde sa science. Mais ça touche le point de vue bioéthique, justement. L'éthique, c'est l'homme. C'est pas la science. À moins d'être comme Bono en disant l'éthique varie selon les progrès de la science. Non, l'éthique ne varie pas selon les progrès de la science. Parce que l'homme ne change pas en fonction de la science. Certaines découvertes peuvent se faire, mais l'éthique est commandée par la finalité de l'homme. Or, la science ne dira jamais rien sur la finalité. La science biologique. Pour comprendre la finalité de l'homme, il faut découvrir l'âme. philosophe découvre l'âme. C'est pour ça que le médecin sera plus attentif à la philosophie que le savant. C'est très très curieux ça. Et le médecin verra tous les problèmes très délicats qu'il se pose aujourd'hui. Et les posera. Il y a quelques années, je connaissais tout un groupe de médecins chrétiens qui m'ont parlé de tout ça et je leur ai dit, faites un dossier que je donnerai au pape. C'était tous ces problèmes d'aujourd'hui. Et c'était des médecins, c'était pas des savants. Parce que les médecins se posaient la question. Et je comprends très bien. Parce que le médecin a affaire à un homme, à une femme, à un chrétien, à une conscience de chrétien, auquel il doit se faire attention. Il est attentif à ça. Comme médecin. Parce qu'il regarde la santé. La santé de l'homme. Et le point de vue de la santé, on l'a vu, hein, l'union de l'âme et du corps. Vous ne pouvez pas rendre la santé à quelqu'un sans regarder sa personne humaine. Oui, c'est ça qu'on souffre le plus aujourd'hui. On a des spécialistes. Les spécialistes risquent de faire passer la science avant la médecine. Parce que la médecine, on regarde l'homme. Et le médecin, surtout s'il est un médecin chrétien, mais je dirais s'il est un médecin tout court, un médecin reste un homme qui soigne un homme, avec le respect qu'il doit avoir vis-à-vis des convictions profondes et religieuses de cet homme. Parce qu'il regarde la finalité, il est respectueux de la finalité. Et il doit être respectueux de la finalité. Même un psychanalyste doit être respectueux de la finalité de l'homme. C'est très très important, vous voyez. Et alors, je vous demande, puisque c'est la dernière journée, toutes les questions que vous avez, et si dans ce que j'ai pu dire, il y a des questions qui peuvent heurter, posez les questions, ça je vous le demande. Hein. Moi je vous parle en toute liberté. Mais il peut y avoir des questions qui ah, je comprends pas, mais je vous demande de dire, les carrefours sont faits pour ça. Les carrefours sont faits pour que vous puissiez exposer toutes les questions. Oui. Et les questions au point de vue bioéthique. Toutes les questions. Oui. C'est l'importance de ces sessions. C'est qu'on a, on doit avoir cette liberté entre nous. Et mon père, là, vous me heurtez. Très bien. Pourquoi? Je ne veux pas vous heurter. Au contraire, éclairer pour que, de fait, vous puissiez voir ces problèmes extrêmement importants aujourd'hui, devant lesquels on s'affronte. C'est des problèmes qui sont très très importants, parce que le chrétien n'a pas le droit de dire « je m'abandonne au médecin ». Ah non ! Vous êtes chrétien, vous êtes au-dessus du médecin. En tant que chrétien, vous avez la grâce. Et en la grâce, vous êtes fils de Dieu. Et le fils de Dieu n'a pas le droit d'abandonner sa conduite au médecin. Quand un médecin dit à une femme, « Oh, vous avez assez d'enfants, on va vous faire une petite opération, on n'en aurait plus. » Est-ce que vous avez le droit de dire, « Oui, très bien, médecin, faites ce que vous pensez le mieux. » Pas du tout. Absolument pas le droit. Vous avez en tant que chrétien une vision plus noble que le médecin. Et plus profonde que le médecin, parce que c'est enfant de Dieu. Si vous avez un médecin chrétien, il comprendra. Si vous avez un médecin qui n'est pas chrétien, il ne comprendra pas. Il dira un petit peu malade, hein. Surtout si c'est un psychanalyste, il dira, vous voyez la religion. Il faut être très net là-dessus, vous voyez. Je crois que la philosophie doit permettre à l'homme de comprendre toute sa dignité de personne. Et la dignité de la personne humaine est quelque chose de très grand. La dignité de la personne humaine est au-dessus de toute science humaine. Et le philosophe est au service de la dignité de la personne humaine. Je crois que c'est un des aspects très importants de la philosophie d'aujourd'hui. Pour moi, ça me semble très très important. Si je fais de la philosophie, c'est pour rappeler à l'homme sa dignité. Et là, le Saint-Père est tout à fait net là-dessus. La philosophie pour rappeler à l'homme sa dignité. Le philosophe est au service de la dignité de l'homme. À la différence des idéologies. Et il y a une idéologie positiviste. Et l'idéologie positiviste, c'est de faire croire que la science domine. Pas du tout. Les idéologies mesurent l'homme. Et veulent mesurer l'homme. Et veulent diriger l'homme. Alors que le philosophe est au service de la dignité de l'homme. Pour découvrir les finalités propres de l'homme. Et les finalités propres de l'homme, ça va aussi les comprendre. L'amour d'amitié, la contemplation de Dieu et la recherche de la vérité. Et la recherche de la vérité qui est toujours au service de la découverte de la finalité. C'est très vrai que la recherche de la vérité est pour découvrir ma finalité ultime. C'est pour ça. Ce que je vous disais, la vérité et Platon, je les aime tous les deux, mais la vérité plus encore, c'est pour dépasser Platon. C'est pas si mal. La recherche de la vérité permet de relativiser Platon. Et Platon est toujours un tout petit peu la source de toutes les idéologies. Et la recherche de la vérité, c'est relativiser les idéologies. Alors, vous voyez, je vous dis ça, c'est parce que je crois que c'est très important entre nous de garder cette recherche de la vérité. Donc, s'il y a eu des choses qui ont pu être dites, qui vous posent des questions, je vous en supplie, posez vos questions. Et ne partez pas sans les avoir posées. Oui. Parce que ça, j'y tiens. Autrement, une session comme ça devient vaine. Elle n'a pas son but. Son but, c'est qu'on recherche la vérité en respectant le point de vue scientifique à son niveau, le point de vue philosophique et le point de vue chrétien du croyant. Et en comprenant que certaines choses peuvent être dites au point de vue chrétien, que je peux très bien ne pas comprendre au point de vue scientifique. Ça qui est toujours très difficile, c'est que le Saint-Père demande des conseils aux savants, mais il ne décide pas en fonction des savants. Autrement, il serait positiviste. Il serait désastreux. Il ne pourrait plus être croyant. Monod disait, lui, l'éthique change en fonction du progrès de la science, mais le Saint-Père ne dit pas ça. Ça veut dire, respectons la science, la vraie science, et comprenons que dès qu'il y a des applications, l'éthique intervient tout de suite. Et la science ne peut pas justifier ses applications par rapport à l'homme. Vous voyez ? Alors, l'application, c'est l'usage, et l'usage est éthique. Les conclusions scientifiques ne sont pas éthiques, ce sont des conclusions scientifiques. On peut discuter ces conclusions, on peut les discuter, pour savoir si c'est bien ou pas. Le critère, au point de vue éthique, n'est jamais l'efficacité. Vous voyez ? Jamais l'efficacité. Le critère éthique est la question de la finalité de l'homme. L'amour d'amitié. Dans ce qu'il y a de plus fort. Mais c'est l'amour qui seul me permet, l'amour d'amitié, l'amour entre personnes, qui permet de justifier une éthique fondamentalement humaine. L'adoration, une éthique religieuse, et le mystère du Christ dans sa sagesse de la croix. une éthique chrétienne. Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, on est obligé de faire ces distinctions. Oui. J'ai trouvé beaucoup trop lamentable, souvent, dans ces discussions par rapport à l'avortement, de confondre tous les motifs. Alors, ça, les discussions ne portent pas. C'est-à-dire, mais oui, c'est un chrétien qui dit ça. C'est pas étonnant en tant que chrétien. C'est un homme qui croit dans la création, c'est pas étonnant qu'il dit ça. Mais l'homme, or, des quantités d'hommes dans la culture moderne, dans cette laïcisation, veut émanciper l'homme de l'attitude religieuse et de l'attitude chrétienne. Alors il faut montrer qu'au niveau de l'homme comme tel, éthique humaine, éthique de l'amour d'amitié, si vous tuez l'amour d'amitié, vous tuez l'homme. Parce que vous faites que l'homme n'a plus de finalité. Si l'homme n'a plus de finalité, il est un errant. Il se suicidera. S'il n'a pas de but dans sa vie, il n'a pas de signification à sa vie. C'est pour ça que c'est grave. Je connais un médecin psychanalyste, elle est morte du reste, c'était une femme. Au moment de la loi de Simone Veil, je n'avais pas demandé, parce qu'elle était très vaguement croyante. Elle croyait en Dieu, l'existence de Dieu. Mais elle a écrit une lettre à Simone Veil qu'elle m'a montrée, du reste, après l'avoir envoyée. Elle m'a montré le double. C'était une lettre de médecin à médecin, et d'homme à homme, ou de femme à femme. Qui était nette. Elle a dit, vous ne voyez pas ce que vous faites. Vous ouvrez la porte. Il n'y aura plus le fondement de la morale, de l'éthique, c'est le respect de l'autre et de la personne humaine. S'il n'y a plus ce respect, vous verrez que l'homme n'a plus de finalité. Il n'a plus de sens à sa vie. C'était écrit en tant que médecin, en tant que femme, comprenant la dignité de la femme, comprenant la grandeur de la femme et la responsabilité de la femme mère. Au niveau proprement humain, éthique humaine. C'était très beau. Évidemment, il n'y a pas eu de réponse. Mais c'était grand. Oui, et je crois que ça, c'est ça qu'on doit garder dans le monde d'aujourd'hui. Et la philosophie est faite pour maintenir ce sens de la dignité de la personne humaine. Oui, c'est là où on aboutit hein, aujourd'hui. La dignité de la personne humaine. Alors, je vais répondre à cette question aussi. Vous n'avez pas employer l'expression composé humain, ni individu doué de raison et de liberté pour définir la personne humaine. Oui, c'est parce que c'est pas immédiatement nécessaire, c'est impliqué dedans. J'ai parlé de l'âme et du corps, ben c'est le composé. Et quand je dis que c'est une idée substantielle, j'aime pas composé, parce que c'est plus un composé, c'est une unité. Une idée substantielle. Et que la personne humaine implique cette unité de l'âme et du corps. Vous voyez ? Tant que vous parlez de composé, vous restez dans la dualité. Quand vous parlez de l'unité, vous allez au-delà. C'est pour ça que j'aime mieux dire l'unité substantielle qui existe entre l'âme et le corps. Donc, c'est un dessin, je n'ai pas employé composé. Individu, c'est le singulier. La raison, j'en ai toujours parlé. Alors, la liberté, elle est présente dans l'amour. Dans l'amour d'amitié. Il n'y a pas d'amour d'amitié sans liberté. Il n'y a pas de recherche de la vérité sans liberté. Donc c'est présent. Mais j'ai pris plus la finalité que la liberté, parce que la liberté n'est pas une finalité. La liberté ne structure pas la personne. C'est une condition nécessaire pour que la personne humaine existe. Mais ça ne structure pas. Oui, qu'on l'emploie constamment, parce qu'aujourd'hui, ça fait partie des slogans. Si vous ne parlez pas de liberté dans un discours électoral, vous êtes le dernier des derniers. Mais les gens qui parlent de la liberté ne savent pas ce que c'est. On peut être libre et être malheureux. Moi, je veux que les hommes soient heureux. Parce que si on ne sait pas ce que c'est que la liberté, et si on ne sait pas ce que c'est que l'amour, on crève. La liberté ne rend pas heureux. C'est l'amour qui rend heureux. Et la recherche de la vérité. Alors, évidemment, pour une recherche de vérité, vous êtes libre. Vous êtes autonome. Pour une recherche de l'amour et d'un bon avis, vous êtes libre. C'est impliqué dedans, vous voyez ? Comme une condition sine qua non. C'est depuis Descartes que la liberté devient une structure de l'homme. Et on voit à quoi ça aboutit. Il y a des gens qui se suicident librement. Mais quand ils se suicident, ils ne disent pas du tout qu'ils sont libres. Ils disent que c'est une nécessité psychologique qui les conduit là. Je suis conduit là fatalement. Je ne peux pas faire autrement. Voilà tout le raisonnement qu'ils disent. Vous voyez ? C'est pour ça que la liberté pour la liberté fait que la liberté n'existe plus. La liberté n'existe qu'à l'intérieur de l'amour. La vraie liberté. Ou à l'intérieur, pour l'artiste, parce qu'il y a deux libertés. Il y a la liberté humaine, morale, éthique. Et puis il y a la liberté de l'artiste. Oui. Deux libertés irréductibles. Quand on parle de liberté en soi, j'ai toujours envie de rire. Parce qu'on fait un mixte des deux. C'est ce que fait Sartre. Sartre ne sait pas ce que c'est que la liberté. Il ne sait pas. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Alors il ne parle que de la liberté de l'artiste. Ça c'est vrai, il parle de la liberté de l'artiste. Parce que Sartre est un artiste. La liberté de l'artiste provient de son inspiration. Un artiste est libre dans la mesure où il est inspiré. Tandis que la liberté éthique provient de l'amour. Oui, il y a deux sources de la liberté. Et il y aura toujours deux types de liberté, irréductibles. Mais alors évidemment, la liberté de l'artiste se manifeste beaucoup plus. L'artiste claironne sa liberté. Je suis libre. L'amoureux ne claironne pas sa liberté. Je t'aime. Je suis libre de t'aimer. Mais l'amour va bien plus loin que la liberté. Si vous aimez pour être libre, vous tuez l'amour. Si vous êtes libre pour aimer, vous maintenez l'amour. Vous voyez, la liberté est ordonnée à l'amour. Je suis persuadé qu'il y a des quantités de divorces qui proviennent de là. C'est parce qu'on mesure l'amour à la liberté qu'on a. Il faut accepter quand on aime qu'on est lié, qu'on devient relatif à quelqu'un. Et à partir de là, on a une liberté plus grande. Mais on aime quelqu'un. Quand on aime quelqu'un, on ne se pose pas la question, est-ce que je suis libre, est-ce que je ne suis pas libre ? Non. Pas du tout. On l'aime. C'est suffisant. Et c'est très important ça, la question d'ordre entre liberté et amour. Mais depuis Descartes, tous les Français qui sont cartésiens, par définition, et qui inondent l'Afrique de Descartes, ce qui est le drame africain. L'Afrique n'est pas faite pour être descartésienne. Mais les professeurs français en Afrique enseignent Descartes. Sénégal, j'ai donné des cours libres, mais à des étudiants de philosophie. Ils m'ont posé la question au bout d'une heure que je leur parlais. Êtes-vous marxiste ? Je leur ai dit non. Ils ont posé la question, peut-on être philosophe sans être marxiste ? Ça m'a dit long, ça, vous voyez. Peut-on être philosophe sans être cartésien ? Oui. La philosophie est né avant Descartes. Heureusement pour elle. Descartes est un type de philosophie française. Terriblement française. Et qui ne fait que c'est pas du tout la philosophie. Parce que la philosophie est la philosophie de l'homme. Elle n'est ni française, ni grecque, ni africaine, ni américaine. Elle est la philosophie de l'homme. C'est ça l'avantage de la philosophie, c'est que ça vous fait sortir d'un carcan politique. Vous dites qu'on a la même âme spécifiquement, donc aussi la même intelligence spécifiquement, heureusement. C'est pour ça qu'on peut se parler. Et c'est pour ça que vous pouvez interroger. Et c'est pour ça que je vous dis d'interroger. Autrement, on serait chacun dans son secteur individuel. J'étais cet individu particulier, j'ai eu cette éducation, donc personne d'autre ne peut me comprendre. Oui, c'est ce dialogue que j'avais une fois, je me souviens, avec des prêtres ouvriers, dans un carmel. Ce carmel recevait ses prêtres ouvriers toutes les semaines, c'était très beau. Et je prêchais ce carmel. Alors le mère prieur m'a dit, avec beaucoup de modération, Père, est-ce que vous pourriez manger avec ces prêtres? Est-ce que ça vous gêne ou pas? Je dis, pourquoi que ça me gêne? Ils sont mes frères, je les aime beaucoup. Alors ils étaient six prêtres ouvriers. Puis j'étais moi, non prêtre ouvrier. Alors ils m'ont demandé, évidemment, tout de suite, qu'est-ce que vous faites? Je suis professeur de philosophie. Ils m'ont posé la question, quelle philosophie? Alors à ce moment-là, j'ai retourné la question. Je dis, ah, pour vous, il y a plusieurs philosophies. Alors, quelle est votre philosophie? Oui, je gagnais du terrain parce que je les ai interrogés. Alors, pour vous, quelle est votre philosophie? Alors, ça m'est bu. Je dis, moi, je fais la philosophie de l'expérience humaine. Et je fais la philosophie pour connaître l'homme. Or, je crois que vous êtes prêtre ouvrier pour connaître l'ouvrier. Elle dit, ah oui, c'est pour ça. Ah oui, je leur dis, j'ai connu l'abbé Godin qui était au point de départ. Je sais très bien pourquoi vous êtes prêtre ouvrier. Mais vous comprenez, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que l'ouvrier si vous ne savez pas ce que c'est que l'homme. Alors à ce moment-là, j'aurais fait un petit cours philosophique sur l'homme. Alors là, elle dit, ah oh, mais ça doit être très intéressant une philosophie comme ça. Je dis, je comprends que c'est intéressant. Vous devriez venir être étudiant à Fribourg, ça vous ferait beaucoup de bien. Une année sabbatique, ça vous ferait beaucoup de bien de comprendre ce que c'est que l'homme, parce qu'on ne peut pas comprendre ce que c'est que l'ouvrier si on comprend ce que c'est que l'homme. Alors au bout d'un certain temps, j'aurais dit, vous m'avez posé quelle philosophie? Hein, vous attendiez que je dise la philosophie thomiste, hein? Voilà ce que vous attendiez. Hein, puisque je suis dominicain, je ne peux enseigner que le thomisme. Bien, vous ne savez pas ce que c'est que saint Thomas. Vous ne le connaissez pas. Cette philosophie que j'enseigne, c'est celle de saint Thomas. Mais j'essaie de la comprendre. Je ne suis pas dans la scolastique décadente. J'essaie de reprendre tout à la source. Qu'est-ce que c'est que l'homme? La grande question que s'est posée saint Thomas. Qu'est-ce que c'est que Dieu? Qu'est-ce que c'est que l'homme? Alors, vous voyez, c'est ça la philosophie. Donc, on essaie de comprendre l'âme humaine, si elle est plus ou moins perspicace, est-ce uniquement par son conditionnement, atavisme, affectivité, et vous oubliez aussi le travail. On devient intelligent. On devient intelligent. Alors c'est plus difficile quand on commence à 45 ans. Plus difficile. Ou à 50 ans. Que quand on commence à 18 ans. Mais on devient intelligent. Il y a des cultures qui sont vraiment des étés noirs et qui empêchent les gens d'être intelligents. Je crois, si je suis chrétien, que le rôle du démon, c'est de nous rendre bêtes. Et le démon fait tout pour être un été noir, pour montrer à Dieu, voyez, l'image de Dieu. votre petit chéri, votre petit Benjamin, voyez ce qu'il est bête. Et vous avez voulu en faire un chef-d'œuvre. Toute la culture, le démon intervient sur la culture, par l'imaginaire. C'est de faire une culture qui appétise les gens. En les séduisant. Et qui les empêche d'avoir une autonomie réelle, profonde, d'être intelligent. Donc, vous voyez, si elle est plus ou moins perspicace, est-ce uniquement par un conditionnement? Non, pas uniquement. Ou bien l'intelligence est-elle par elle-même plus ou moins qualitative? L'intelligence, au point de départ, nous avons tous la même âme créée par Dieu. Et l'intelligence aussi, mais notre âme est dans notre corps. Et le corps, nous allons le voir, je vous l'ai dit hier, c'est un grand conditionnement. Au plan métaphysique. Au plan de la personne humaine. Et ce conditionnement m'oblige de travailler. Alors on travaille plus ou moins intelligemment, suivant qu'on a des maîtres plus ou moins intelligents. Et la question de cette étudiante au Saint-Père, quand le Saint-Père est passé à l'université de Fribourg, heureusement j'étais plus professeur, j'étais en dehors. J'écoutais avec le bon peuple. Et les professeurs étaient là. Et devant tous les professeurs, cette étudiante, c'est bien une étudiante du reste, avec toute sa liberté, c'est très sympère. Comment se fait-il qu'on a beaucoup de professeurs très informés, mais on n'a plus de maîtres? On a des professeurs très, très informés. Ah, ils connaissent leur métier. Un professeur informé n'a pas besoin de connaître la finalité de l'homme, mais il reste un professeur. Tandis qu'un maître conduit à montrer que toute recherche de vérité, un professeur qui ne recherche pas la vérité, même de littérature. Parce que la littérature implique ça. Un professeur de mathématiques peut à la rigueur ne pas connaître ce que c'est que l'homme. Peut-être uniquement les mathématiques. Comme un professeur de logique mathématique, d'informatique, peut très bien pas connaître l'homme. C'est dans le drame. Parce qu'au bout d'un certain temps, l'homme réapparaît à l'intérieur. Donc vous voyez bien, au point de départ, nous avons tous une intelligence qui tout de suite est très conditionnée par notre corps, par l'atavisme, par la culture dans laquelle on est. Autre chose est de naître à Paris, autre chose est de naître, je ne sais pas moi, dans la Brousse. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'était le point de départ, l'environnement tout de suite. Mais c'est pas ça qui rend intelligent. C'est pas le conditionnement en premier lieu. C'est le travail. C'est la rencontre avec les autres hommes. Et trouver un maître au point de vue de l'intelligence, c'est énorme. Ah, c'est vrai, mais il n'y a plus beaucoup de maîtres. Ça, je suis tout à fait d'accord. Parce qu'il n'y en a plus beaucoup qui... Et vraiment le sens de la finalité. C'est pas, ça ne peut pas dire que pour être, qu'il n'y a que les philosophes qui peuvent être des maîtres. Non. Si si on n'est pas philosophe, on peut être l'ami d'un philosophe. Et par l'amitié, on connaît des quantités de choses. Bon, vous voyez très bien, Fribourg, petite université, on voyait tout de suite ceux qui étaient des amis. Et dès qu'on les rencontrait, il y avait un professeur de littérature française qui était merveilleux et qui sentait ça admirablement. Il y avait un professeur d'histologie qui sentait ça, de biologie. Et il sentait qu'il fallait revenir tout le temps à l'homme et vous interroger sur l'homme au plan philosophique. Et c'est suffisant. Vous voyez, le maître, c'est celui qui ne ferme pas. Il n'est pas été noir. Il ouvre. Il vous dit, allez par là. Voilà les pistes. Le maître, c'est pas celui qui donne des conclusions. C'est celui qui ouvre des pistes de recherche pour découvrir. Pour découvrir soi-même. Parce que tant qu'on l'a pas découvert soi-même, on l'a pas vraiment découvert. Platon savait très bien ça. Il faut découvrir soi-même. Il faut être intelligent pour que on découvre telle chose. Et puis, alors évidemment, ça, c'est plus difficile que si vous donnez des conclusions au terme. Je vous dirais, hein, pour satisfaire tout le monde, on donnera quelques petites conclusions. Et c'est pas ça qui m'intéresse, en premier lieu. Ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'il y a une recherche sur le corps humain. Il y a une recherche sur le point de vue de l'alliance de l'homme et de Dieu dans la procréation. Alliance que le chrétien connaît, que l'homme religieux connaît, que l'éthique humaine ne peut pas atteindre et que le savant ne peut pas atteindre. Et donc traiter scientifiquement le problème de la procréation, c'est partiel. Traiter dans une éthique fondamentalement humaine le problème de la procréation, c'est partiel. Parce que le problème de la procréation relève d'une alliance avec Dieu. Création de l'âme. Parce que la procréation a quelque chose de sacré, au-delà du point de vue éthique. Alors, lors du sacrifice du Christ, donc ça c'est pour ce soir. Je continue, hein. C'était nécessaire de voir ça pour mettre les choses. Vous voyez, il faut que ce soit très net pour vous. Des distinctions, ce n'est pas des séparations. Hein. Le même homme peut être chrétien, peut être philosophe, peut être savant. Heureusement. Et même pour être parfaitement homme aujourd'hui, je crois que c'est nécessaire tout ça. Je ne dis pas être un spécialiste, non, non. Avoir des amitiés. Avoir des amitiés. C'est pour ça qu'on est tellement heureux que dans la communauté Saint-Jean, il y ait des médecins, il y ait des biologistes, il y ait des matheux. C'est très très important, ça. Je ne demande pas que ces matheux soient le premier mathématicien du monde. Ben, ils n'entreraient pas dans la communauté Saint-Jean, celui-là. Il y aurait de la peine, pas commode. Mais qu'ils soient quand même des gens qui connaissent, là. Aujourd'hui, le philosophe ne peut pas tout connaître. Mais il faut qu'il ait des amitiés avec des matheux, des scientifiques, des artistes, tellement importants. Et des amitiés avec des hommes religieux. L'islam. J'ai un grand ami kabyle. Qui est merveilleusement religieux, qui est musulman. Il m'a fait connaître des tas de choses. On ne parle plus du tout de l'islam de la même façon quand on a un ami. C'est comme pour des juifs. On ne parle plus du tout de la même façon. C'est tellement important, ça. Oui, l'amitié vous ouvre. On ne parle plus de la même façon. On parle comme d'avoir des amis psychanalystes. C'est très important. Moi, j'avais étudié Freud avant, et je ne parle plus de la même façon. Quand, de fait, on les atteint par des amis, par des médecins. médecins qui font de la psychanalyse. Aujourd'hui, c'est très très important. Ça maintient, vous voyez, ce contact humain. Et on voit les choses de l'intérieur et plus de l'extérieur. La connaissance est intus legere, comme dit saint Thomas. C'est lire de l'intérieur. La raison regarde de l'extérieur. Les idéologies regardent de l'extérieur. Le philosophe essaie de tout atteindre de l'intérieur. Par l'homme. En connaissant l'homme. Et en connaissant l'homme dans sa complexité. Et de connaître le corps de l'homme. Le conditionnement. Alors, je vous disais hier, c'est important, qu'il fallait regarder le problème de la personne et le problème du corps. Alors là, vous voyez, je suis à un niveau nouveau. On a regardé le corps, matière. Premier regard, philosophie de la matière. Regarde le corps comme le chef-d'œuvre de la matière. Le corps est le chef-d'œuvre de la matière. Vous n'avez pas une matière plus parfaite que le corps humain, que le corps de l'homme. C'est là où la matière a moussé le plus. C'est là où la matière a quelque chose de très particulier. Parce que le corps de l'homme est matière, il est poussière. Puis vous avez regardé le corps vivant. C'est évident que le corps vivant est impliqué dans le corps. Mais ce n'est pas la vie que je regarde quand je regarde le corps par rapport à la matière. Philosophie de la matière. Philosophie du vivant. Et regarde le corps vivant. Le corps de l'homme comme le vivant par excellence. C'est le vivant numéro un. Même si vous aimez beaucoup les araignées, vous êtes obligé de considérer que le corps de l'homme est plus parfait que le corps de l'araignée. Parce que quelquefois, on considère que l'araignée est le modèle de l'irascible. Personne d'aussi irascible que l'araignée. Donc quand vous êtes en face de quelqu'un qui a un irascible extrêmement développé, vous pouvez lui dire cette injure suprême, espèce d'araignée. C'est l'irascible le plus développé. Eh bien, le corps de l'homme, le corps vivant de l'homme, c'est le corps le plus parfait au point de vue vivant. La vie est la plus parfaite. Bon, on a essayé de comprendre ça. Maintenant, je suis en philosophie de l'être. Ce qu'on appelle la philosophie première ou la métaphysique. Et la métaphysique conduit au problème de la personne. Dans une perspective métaphysique, qu'est-ce que c'est que le corps de l'homme? Qu'est-ce que c'est que le corps humain? Voyez la question. Il faut aller jusque-là pour comprendre ce que c'est que le corps. Il faut le regarder au point de vue de l'être. Bien, je vois que le corps de l'homme, il n'existe que grâce à l'âme. Il existe par l'âme. Il est une réserve de virtualité, de potentialité extraordinaire, radicale, substantielle. On ne sait jamais ce qu'un homme pourra réaliser dans sa vie. On ne peut jamais prévoir exactement à cause de toutes ces virtualités. Terrain volcanique. Alors un volcan très vieux pour grand.